Bonjour à tous, 10h10, l'heure de 1901, et au micro de 1901, aujourd'hui, l'échiquier chalonné.
Oui, bonjour à tous et toutes. Donc nous recevons aujourd'hui M. Diego Salazar, qui est directeur du club l'échiquier chalonnais, et Mme Angélique Thiriet, qui en est la secrétaire. Donc aujourd'hui, on va essayer de présenter un petit peu déjà l'association, enfin votre club, et surtout les avantages du jeu d'échecs, enfin ce qu'il apporte, quelles compétences sont développées. Alors déjà, on va peut-être parler de l'association un petit peu, parce que vous avez une association qui a plus de 600 salariés, je crois, c'est ça?
Alors, pas 600 salariés.
Ça fait beaucoup, licenciés.
Après, on passera au niveau national.
Alors, ça commence mal. Non, c'était licenciés. Pardon.
Oui, alors, l'association, en fin de compte, elle a plusieurs... Elle se positionne sur plusieurs segments, le côté sportif, le côté sociétal. On fait énormément de choses. Il y a entre 300 et 400 licenciés actuellement. On initie 5000 enfants au jeu d'échecs. On organise 66 manifestations sur l'année. On a 3 équipes de haut niveau. On a aussi un centre de formation au niveau des jeunes et adultes. Enfin voilà, c'est très 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 dense.
Ouais. Oui, c'est dense. Vous avez beaucoup d'activités. Donc pour revenir à ce que vous venez de dire, donc des licenciés en nombre et non pas des salariés. Vous initiez beaucoup de jeunes toute l'année. Donc comment vous faites? Vous allez dans les établissements scolaires? Vous avez des contacts avec l'éducation nationale, par exemple? Les écoles
Oui, tout à fait. L'éducation nationale est un partenaire privilégié. On travaille avec eux. Alors, quand on intervient dans les écoles, c'est justement pour utiliser le jeu d'échecs comme support pédagogique et que les enfants obtiennent de meilleurs résultats scolaires. C'est pas d'en faire des champions d'échecs, mais effectivement, ceux qui le souhaitent par la suite peuvent participer aux manifestations qu'on organise, comme les tournois jeunes, par exemple. On organise des tournois famille, et effectivement, derrière, ils peuvent aussi progresser lors de ces manifestations et venir au club.
D'accord. Donc, le jeu d'échecs, traditionnellement, avait une image plutôt de sport pour l'élite. Il faut être matheux ou scientifique pour jouer aux échecs. C'est une image qui, quand même, s'est un peu améliorée, puisque ça s'est quand même démocratisé, le jeu d'échecs. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous, sur les échecs? Est-ce que c'est réservé, étant un sport cérébral? Est-ce qu'il faut être matheux, très intelligent
Alors, pour jouer aux échecs, nul besoin d'être un homme ou matheux, même si c'est l'image que le jeu d'échecs véhicule depuis très longtemps. J'en suis la preuve, moi je suis une littéraire, une femme, et j'adore jouer aux échecs.
Donc, ça commençait mal, mais ça finit bien. Jouez aux échecs.
J'arrive à jouer aux échecs comme n'importe qui. Alors, je ne suis pas une championne, mais l'essentiel, c'est de s'amuser, et puis après, en fonction de ses souhaits, on peut continuer et faire vraiment les choses sérieusement pour faire de la compétition. Mais en tout cas, tout le monde peut apprendre à jouer aux échecs. On peut apprendre sans souci à partir de 4 ans. Nous, les petits, les plus jeunes qu'on a au club, ils viennent à partir de l'âge de 4
filles
ans.
Filles et garçons.
Filles et garçons. Et
justement, ça n'est pas réservé aux hommes. Mixte.
Non, c'est pas réservé aux papas et aux petits garçons. Tout le monde est accueilli. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Donc, c'est ça qui est beau aux échecs, c'est que c'est vraiment une activité intergénérationnelle, mixte. On peut venir de n'importe quel milieu, classe sociale, on peut avoir n'importe quel emploi, on accueille absolument tout le monde, des joueurs en situation de handicap aussi, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'on peut réunir autour d'un échiquier des gens d'horizons vraiment très différents.
Oui, donc,
et c'est ça qui est intéressant aussi.
Des femmes, des hommes, des petites filles, des petits garçons.
Voilà, des jeunes, des moins jeunes.
Des gens issus de classe sociale plutôt favorisée, des quartiers prioritaires de la ville, parce que je sais que vous vous tenez beaucoup aussi à ça, c'est-à-dire bien mixer les publics, et c'est ouvert à tous. Et vous êtes déjà rive gauche à Chalon,
voilà,
déjà votre siège.
Le club est implanté rive gauche, donc ça fait venir dans ce quartier des gens du centre-ville, par exemple, des gens de l'extérieur aussi, et ça crée une jolie mixité sociale. Et il y a vraiment une émulation qui naît avec ça, en fait. Oui. Les gens se rencontrent, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de jeu, de rencontre et de convivialité. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup.
Oui, j'imagine. Donc, j'ai vu, vous aviez aussi un label Club Féminin. Alors, ça consiste en quoi, ça, le label? Ça vous est décerné par la Fédération Nationale ou...
C'est un label de la fédération qui essaye de mettre l'accent dans certaines disciplines sportives, comme le football par exemple, hein, où vraiment le sport féminin se développe plus difficilement par exemple. Donc nous, on a un pôle féminin, on a un grand maître international, Paul Velten, qui a souhaité cette année mettre en place un pôle espoir féminin. C'est-à-dire qu'il prend les femmes et les petites filles les plus prometteuses en cours pour les faire progresser et les faire accéder plus facilement à un haut niveau de compétition.
D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose déjà d'exceptionnel, parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs français.
Là, oui,
il fait
partie des maîtres, deux seuls.
Alors, grand maître international, c'est un titre en dessous du niveau de champion du monde, en fait. Hein. Il y a le champion du monde et les meilleurs, après, sont grands maîtres.
Si je peux me permettre, est-ce qu'il existe des femmes grands maîtres, par exemple?
Oui.
Grande maîtresse.
On dit grand maître aussi.
La meilleure, justement, la série Netflix,
c'est
le jeu de la dame. C'est l'histoire de Judith Polgar, qui est la seule femme à être rentrée dans le top 10 mondial.
Donc c'est quand même assez exceptionnel.
Oui, alors ce qui a été démontré, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, mais Judith, effectivement, c'est le génie mondial du jeu d'échecs. Voilà. Et effectivement, de là, c'est elle qui a été consultante sur la série.
D'accord.
On en reviendra peut-être, on en rediscutera un peu plus tard, mais qui a été une série qui a eu un grand succès.
Oui, et qui d'ailleurs est une série intéressante, et je pense que ça a dû développer, enfin ça a dû permettre à des gens d'avoir envie de jouer aux échecs, parce que bon, même si c'est romancé, ça donne vraiment envie, en plus une jeune femme, enfin voilà, bon. Et donc d'accord, donc vous avez
Secteur féminin, il y a pas que ça, ça concerne les meilleures joueuses effectivement prometteuses du club, mais il y a aussi des actions qui partent du terrain, c'est-à-dire qu'on a les Smart Girls, c'est un dispositif dans le cadre de la politique de la ville, où on a un gros soutien du préfet, des collectivités, et où là on va sélectionner 10 jeunes filles au niveau des écoles, et on va les accompagner tout au long de l'année, justement pour rendre accessible notre sport, et puis qu'elles puissent effectivement s'épanouir en jouant aux échecs. Et là on part du principe, il y a un autre dispositif qui est comme ça aussi, c'est que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on peut pas réussir sa vie, donc on va les mettre en situation de réussite, et donc là on va utiliser effectivement le jeu échec comme support, qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire l'excellence, un sport d'élite, et ce qui fait que là, cette image, elle rayonne sur les jeunes demoiselles ou les garçons. Et c'est alors on n'a plus le droit de dire demoiselle, hein. Ces jeunes dames,
jeunes filles, vous pouvez dire jeunes filles,
ça va. Attention au vocabulaire.
ces jeunes filles, en fin de compte, on les amène sur des compétitions mixtes, c'est-à-dire qu'au préalable c'est 100% féminin, mais après on les emmène sur une compétition.
C'était une question que je voulais vous poser, par exemple dans un tournoi, il y a deux combattants, si j'ose dire, de joueurs ou de joueuses, mais ça peut être mixte, ça peut être un joueur, une joueuse, ou c'est compétition fille et compétition garçon.
Alors, il y a des compétitions exclusivement féminines, c'est le choix des joueuses d'y participer.
D'accord.
Mais celles qui souhaitent faire la compétition mixte le peuvent.
D'accord.
Également.
Oui, c'est pas.
Et ça, c'est valable pour les compétitions jeunes, par exemple, le championnat de France des jeunes, il y a un tournoi féminin, un tournoi mixte, il y a des jeunes filles qui jouent. D'accord. Avec les garçons. C'est au choix des jeunes filles.
Oui, parce que Alain disait c'est exceptionnel, là on parlait de Judith, dont j'ai oublié le nom, là, mais. C'est normal, puisque à un moment il y avait que les hommes qui jouaient aux échecs. C'est comme plein d'activités, plein de sports en fait, où il y avait beaucoup d'hommes et très peu de femmes, à part la danse ou la gym.
Et dans le club dans l'échiquier chalonnais par exemple, quelle est la proportion de femmes?
On est bien, on est à peu près à 30% de joueuses.
Et donc avec une évolution par rapport au départ?
Alors oui, tout à fait, parce que par exemple avec les dispositifs, ce sont on part effectivement de jeunes qui sont sélectionnés au niveau de l'école, ce qui fait qu'effectivement là on est sur une très bonne proportion, voilà.
Il y a un créneau féminin aussi, spécifique, dans la semaine, qui permet à des femmes qui n'oseraient pas forcément pousser la porte du club de venir.
Oui, peut-être si elles ne veulent pas ou pas être avec
des
hommes.
Voilà, c'est exactement.
Oui,
des mamans seules avec leurs enfants jeunes, je les accueille le mardi soir, de 18 à 19h au Pôle Henri Dunant. Je fais un peu de publicité en même temps.
Ah ben si. De toute façon, c'était le but. Et voilà. Je voulais justement après vous poser contact, etc. Mais ça, on en parlera à la fin.
Alors, il y a une particularité sur ce créneau horaire. La règle, c'est qu'il ne faut pas savoir jouer aux échecs.
Je vais venir.
Voilà, voilà.
Vous êtes bienvenue.
Donc comme ça, parce qu'on s'est rendu compte effectivement, comme on a une image élitiste et intellectuelle, que ça bloquait certaines femmes de pas venir en disant mais je sais pas jouer, je suis trop,
je suis pas intelligente.
Ouais,
je
réfléchis
pas. Il faut venir pour apprendre finalement.
Voilà. Voilà, et donc là, on a essayé de casser ça en disant c'est un moment de convivialité. Mmh. Le but c'est de se retrouver. C'est aussi pour les mamans des quartiers un moment de détente, parce que on s'occupe des enfants à côté et ça leur permet d'être un peu seuls, d'échanger sur
d'autres, de penser à elles.
Voilà, tout simplement, c'est ça. Mmh. Et donc ça, c'est très important. Et ça avait été lancé, on avait commencé au Verbo, et là maintenant c'est Rive Gauche, donc le mardi de 18h à 19h, et c'est Angélique qui anime,
mardi,
et ça marche.
J'ai noté le mardi.
Oui, tout à fait. Et ça marche très très bien.
Je voulais vous poser aussi la question, qui apprend ? Est-ce que vous avez des formateurs ? Comment ça se passe dans le club ? Vous êtes formé à former ?
Oui, c'est ça, il y a des diplômes fédéraux, et la particularité de Châlons Champagne, c'est qu'on sort, nos formateurs sont des champions. Mm. Hein, c'est-à-dire, on a évoqué Paul Veltel, il y a Fabien Guilleux, Antoine Bournel, il y a un petit jeune qui vient d'arriver, Florian Eugène.
Que des hommes.
Alors, c'est tout à fait. Alors, l'année dernière, on était à Vichy lors du championnat de France des jeunes, et est ressorti lors d'une conférence qu'effectivement les clubs qui arrivaient à sortir les meilleures joueuses, c'est parce qu'il y avait un encadrement féminin.
Et ça doit jouer. Ouais, c'est un modèle.
Voilà, c'est ça.
Et, c'est la notion de modèle.
Effectivement. Après, c'est très compliqué de...
Oui, vous pouvez pas les sortir du chapeau.
D'aller chercher un coach féminin.
Mais peut-être dans ceux qui apprennent actuellement, ou celles, pardon, vous allez avoir des jeunes qui pourront former plus tard, formatrice.
Parce que la particularité du club, c'est qu'on sort des Chalonnais qui deviennent maîtres et grands maîtres internationaux. Mmh. Hein, voilà, ça c'est notre grande fierté, c'est-à-dire que le rêve de notre structure, ça serait d'arriver à avoir une équipe top niveau, mais que de Chalonnais. Voilà. Ouais. On va y arriver, il faut juste du temps.
Juste pour chiffrer un peu, en termes d'apprentissage, on est sur l'apprentissage, combien de temps en moyenne pour acquérir l'avancée des pièces, etc., la maîtrise du jeu d'échecs en gros, et je ne dis pas... pour être grand maître, mais simplement pour acquérir les dispositifs de base, quoi.
Alors, pour apprendre le jeu d'échecs, c'est assez rapide, c'est assez simple, le déplacement des pièces. On fait des initiations en 20 minutes, vous savez jouer. Après, sortir un joueur, on va dire, d'un niveau correct, il faut 10 ans.
Hein, oh, moi je serais mort. Je viendrai pas mardi.
Un joueur de club, un bon joueur de club, il faut à peu près 10 ans avec les jeunes.
10 ans à raison de combien d'heures par semaine, par exemple ?
Alors, on peut pas raisonner comme ça, parce que, en fin de compte, justement, on en discutait hier soir, on était avec les champions. Quand un entraîneur de haut niveau donne une heure de cours, il part du principe que ça doit générer 10 heures de travail personnel.
Ah oui, donc là, ça suppose un travail derrière.
Voilà, c'est ça. Là, on est sur le travail personnel. Donc, en fin de compte, la fréquence des jeunes du club, il va y avoir plusieurs créneaux. On va partir sur une base moyenne, on va dire, de 3 heures de cours, mais après, c'est tout le travail personnel.
Donc, en général. C'est-à-dire, ils s'entraînent, ils jouent avec des amis, ou ils jouent en ligne.
Avec des amis, ils lisent des livres.
Oui, il y a des livres, il y a des
exercices à faire.
On ne va pas trop insister parce qu'on va en décourager là.
C'est accessible. Ça, c'est pour acquérir un très bon niveau. Après, juste pour s'amuser, un moment de détente en famille, on va. Pour moi, le jeu d'échecs, c'est ça, c'est la convivialité, c'est intergénérationnel. C'est moi, mon père, j'ai joué avec lui jusqu'à l'âge de 89 ans. C'est
extraordinaire. Et vous jouez avec votre fils aussi.
J'ai plein d'anecdotes. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du public. Là, il y a une anecdote avec mon père. En ce temps-là, ça remonte à quelques années. Mon père, par exemple, jouait. Il y avait un match contre l'armée. Et comme il était très fort aux échecs, il joue au premier échiquier et il joue contre un général. Et il gagne la partie.
Ça a déclenché une guerre ?
Tout à fait. Ça a déclenché une guerre, vu ce qui se passe dans le monde. Heureusement que ça a bien changé. Le général avec le président, c'était Monsieur Leroy. Après, lui dit, mais qui est ce monsieur ? Mon père était d'origine espagnole. Il n'a plus jamais joué dans l'équipe contre l'armée. le général a très mal pris.
Il est exclu.
Il a été exclu.
Oui, ben j'avais pas tort en disant que ça avait déclenché. Ben, c'est sa susceptibilité qui
est... Et donc, et ça, ça a énormément évolué. C'est plus le cas. Voilà, c'est pour ça que dans le temps, c'était réellement réservé à une élite. Et mon père m'a appris à l'âge de 5 ans. Donc, c'est pour vous dire que la société a vraiment très, très bien évolué dans ce sens-là.
Oui, bien ça, c'est une bonne chose. Hein.
Tout à fait. On peut jouer contre un SDF, peut jouer très bien aux échecs, jouer contre un milliardaire.
Bah d'ailleurs, dans le jeu de la dame, à la fin, elle va dans la rue où je ne sais plus dans quel pays on est, où tous les gens jouent dehors. Parce qu'il y a des pays comme ça où on voit beaucoup de joueurs d'échecs dans la rue. Moi, j'ai plutôt une image des pays de l'Est pour les échecs. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être
Kasparov.
Ouais, c'est Kasparov qui m'a traumatisé. Enfin, qui m'a...
Alors, aux USA, il y a beaucoup de squares.
Ah
énormément.
Ouais.
Aux USA, oui, ça joue partout.
Donc, même les Américains jouent aux échecs.
Ah oui, les Américains jouent.
Ça devrait les rendre plus intelligents, normalement,
oui.
Non.
Bah, Trump, il devrait prendre quelques
jours. Ouais. Non, mais lui, il joue au golf.
Ouais, c'est pas mal, le golf, ouais. Pour alors, la concentration.
Et justement, on parle beaucoup des compétences qui sont développées. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement, en termes de compétences? Qu'est-ce que ça favorise, en fait, le jeu d'échecs?
Oh, mais je crois qu'en premier lieu, on pense à la concentration. Mmh. C'est évident, parce que si on veut bien jouer et qu'on regarde ce qui se passe par la fenêtre, la partie ne dure en général pas très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants aux échecs, les enfants qui sont un petit peu turbulents ou qui ont un peu de mal à se concentrer à l'école, on les amène au club d'échecs en disant tu vas améliorer ça, et c'est vrai que ça fonctionne. Donc la concentration, le respect des règles aussi, hein, les enfants qui ne supportent pas les contraintes, les règles, le respect de l'arbitre, de l'adversaire, des règles du jeu, tout ça, ça fait beaucoup de bien. Ça fait aussi du bien aux enfants qui ont des facilités à l'école, qui réussissent sans trop travailler, parce que si on ne travaille pas aux échecs, ben ça ne marche pas. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans la compétition, il y a aussi ces enfants-là qui viennent aux échecs. Tout est facile pour eux. Ah, puis là, on rencontre un petit peu de résistance, et parfois, ça fait du bien aussi, ça. Donc... ça permet de travailler évidemment l'anticipation, hein, parce que c'est bien quand on fait un coup de savoir pourquoi on le fait et d'imaginer ce qui va se passer deux coups plus tard. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est pour les gens plus âgés, le maintien d'une certaine autonomie cérébrale, la réflexion. Voilà, il y a des gens qui font des mots croisés, qui jouent au Scrabble, et puis d'autres qui se mettent aux échecs. Là, on a une dame qui vient d'arriver au club pour la première fois, 80 ans. Elle a dit je veux faire marcher mon cerveau. Voilà, maintenant j'ai un âge où je dois faire des efforts. La gym, c'est bien, mais il faut aussi que j'entretienne mon cerveau. Donc j'ai trouvé ça formidable. Et elle apprend avec un petit garçon de 7 ans, débutant aussi. Ils sont dans le même cours. Donc ça apprend la tolérance aussi, je trouve.
Et en termes de bilan, est-ce que vous avez des expériences humaines, comme ça, de gens qui sont venus qui étaient en difficulté d'insertion sociale, professionnelle ou autre,
et qui,
à la suite de quelques séances, vous les avez vus s'améliorer?
Ah, mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples comme ça. Les familles qui arrivent de l'étranger et qui ne parlent pas encore français, mais ils jouent aux échecs. Ils viennent avec les enfants au club d'échecs. Les enfants apprennent plus vite à parler français qu'eux avec l'école.
Et puis
ils s'intègrent et ils viennent régulièrement. Et moi, je pense à un papa qui est bénévole maintenant, qui parle bien mieux français aujourd'hui qu'il y a un an quand il est arrivé, ou un petit peu plus, et qui est ravi d'être là, qui est ravi qu'on s'occupe de ses enfants et qu'on a aidé aussi. C'est ça qui est beau, c'est que le club aide beaucoup les gens, mais qu'on reçoit beaucoup en retour.
D'accord.
Et humainement, c'est vraiment une très belle aventure, en fait.
Alors, on va peut-être faire une pause musicale, si...
Avec Thomas Fersen, par exemple.
Oui, par exemple, Thomas Fersen. Aucun rapport avec les échecs, mais... Mmh.
Les assassins, mais les plis de ton corps sont plus dangereux encore. Tu me prends par la main, tu promènes mes phalanges, et nous dérangeons les anges endormis sur ce chemin. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou, mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le Jacques. Le bijou est dans la vis de l'escalier de service, elle vient frapper à la porte de ma vie de cloporte. Et même si elle me propose ce que durent les roses, ben je troque mon bouquin pour
le lit à baldaquin. Tu viens chez moi, tu m'enfumes, tu me traites de vieux légumes. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou. Mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques. Escalier de service, elle vient frapper toc 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 dans ma vie de cloporte. Dans mon petit licage, tu m'apportes des oranges avec cette allure étrange qui fait parler les voisins. Tu mets ton doigt sur l'œilleton, tu me traites de vieux crouton. Tu siffles mon cognac et ton rire est démoniaque. Tu viens frapper un grand coup dans ma vie de hibou. Mais pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques. Et sous les couvertures, j'alterne les lectures, un poème d'Edgar Poe avec celui de ta peau. Cette fois je fais ma prière et je fume la dernière au genou de mon bourreau en pleurant comme un veau. Tu t'assois sur mon chapeau, tu n'écrases pas tes mégots. Tu mets le feu à la chambre, tout est réduit en cendres. De ma vie de hibou, il ne reste rien du tout. Et pour tes beaux yeux bijoux, mon cœur fait le jacques.
Voilà, vous écoutez 1901 en particulier, vous êtes avec la fédération, enfin on peut dire le club des l'échiquier chalonnais,
voilà.
À Chalon, avec Chantal.
Et Monsieur Salazar et Madame Thirier. Donc on parlait juste avant la coupure musicale des compétences qui sont développées, la concentration, le respect des règles, etc. Alors là, je voudrais changer un tout petit peu de sujet. Où êtes-vous implanté sur Chalon? Parce que bon, le club est situé rue Henri Dunant, Paul Henri Dunant. Mais est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut jouer aux échecs sur Chalon avec ce club?
Tout à fait. Alors, il y a une grosse dynamique au niveau des quartiers de la ville de Chalon-Champagne. On est présent à Rive Gauche, il y a le siège, à Schmitt, et aussi un club et le parcours d'excellence, les Smart Girls, et aussi sur le Verbo.
Voilà. D'accord.
Donc, ce qui fait qu'on essaye d'avoir de la proximité avec les populations. Hein, surtout dans ces quartiers-là, rendre accessible notre sport est une priorité. Et donc, ce qui fait que là, on a énormément de personnes qui viennent des quartiers prioritaires de la ville de Chalon-Champagne.
Donc, Verbeau, Schmitt et Dunant. Oui, donc vous faites quand même.
Ouais, voilà. Oui.
On peut aussi s'initier aux échecs à la médiathèque Pompidou. Une fois dans la semaine, on a un créneau tenu par une bénévole. Donc en fait, on peut jouer facilement aux échecs à Chalon, peu importe de quel quartier on vient.
D'accord.
On a aussi des clubs annexes qui dépendent de l'échiquier chalonnais sur des villages autour de Chalon.
Par exemple ?
Il y a un club à Suip.
Ah oui, bah c'est bien pour Suip.
Oui,
parce
voilà.
Que c'est pas
c'est,
tout près.
Non,
venir
c'est
jouer,
pas tout près. Ouais. Voilà. Donc Suip, on a Matoug, on a un club
sur
Épernay.
Tout ça animé par des bénévoles
par,
non, non, non,
par des salariés de l'échiquier chalonnais, par des animateurs.
D'accord.
Qui en général font les interventions sur le temps scolaire pendant la journée et qui tiennent le club le soir.
D'accord.
Ce qui permet aux enfants qui accrochent le plus de continuer les échecs après l'école et à leurs parents ou voisins de venir avec eux.
Alors, est-ce qu'on est, par exemple, vous avez donc plusieurs lieux où on peut jouer, est-ce qu'il faut être forcément licencié du club ou est-ce qu'on peut venir voir d'abord? Est-ce qu'on doit déjà avoir payé sa cotisation ou...
Alors, sur ces lieux-là, oui, effectivement. Alors, on peut venir essayer, on vient plusieurs fois, bien sûr, on essaye avant d'adhérer. Après, par contre, il y a. Alors, Pompidou, on peut venir jouer gratuitement, c'est accessible à tous. Et après, on a des événements. Il y a le tournoi famille, qui est accessible à tous. Là, il y en a un qui aura lieu au bureau, là. De demain, donc ça à 15h. Alors il faut s'inscrire avant. Alors là, c'est un adulte et un enfant.
Au bureau, au café,
les animations chez nos partenaires.
Ouais,
voilà. Donc là, c'est un principe intéressant. C'est un adulte et un enfant de la même famille qui affrontent Un adulte et un enfant d'une autre famille. Donc c'est nul besoin d'être licencié à l'IHK Chalonnais pour participer à ce tournoi-là. Il suffit d'avoir envie de venir s'amuser. Et c'est un beau moment partagé entre les parents et les enfants, ou les grands-parents et les petits-enfants. Voilà.
Ah oui, donc vous faites pas mal de choses, c'est vrai.
Des tournois jeunes aussi. Faisait régulièrement des tournois jeunes au club et là, des enfants qui ne sont pas licenciés à l'IHK Chalonnais peuvent venir. C'est parfois même la porte d'entrée pour avoir envie de venir plus régulièrement.
D'accord. D'autres événements où, enfin, je sais que vous faites beaucoup de tournois et vous préparez aussi les jeunes. J'ai vu qu'il y avait des stages pendant les vacances scolaires, stages d'accompagnement. Pour, donc, c'est-à-dire, vous les préparez à des tournois.
On les emmène sur des tournois.
Voilà.
Qui durent en général une semaine. Voilà, sur chaque période de vacances scolaires, il y a un accompagnement qui est prévu. Donc là, la semaine prochaine, on part en Bretagne avec 10 jeunes du club. Et donc, on a un entraîneur qui fait les préparations de leur partie, qui analyse les parties après, et puis nous, on gère l'intendance, la cuisine, les petits bobos s'il y en a.
Comment ils payent leur séjour? C'est les familles qui payent le séjour?
C'est les familles qui participent au paiement du séjour, oui. Voilà.
Okay. Est-ce que vous intégrez les jeux en ligne dans l'apprentissage, justement? Est-ce que le fait de jouer à distance en ligne est intégré dans l'apprentissage des échecs? Est-ce que c'est devenu... Et quel est l'incident, justement, sur un club d'échecs, justement, de cette arrivée du numérique?
Alors, l'arrivée du numérique, alors, pour la formation, elle nous aide énormément. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes vont pouvoir mettre en application les ouvertures qu'ils ont préparées avec les entraîneurs. D'ailleurs, ils
sous forme de tutoriel, j'imagine.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont des faux pseudos pour pas savoir quelle ouverture ils jouent, voilà, pour éviter l'espionnage des concurrents, en quelque sorte. Donc là, les gamins sont spécialistes de tout ça.
Oui, ça, ils doivent bien s'amuser avec ça. Oui.
Alors, après, au niveau des clubs, effectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on voit une baisse de fréquentation au niveau des adultes, surtout sur les structures. Donc là, par exemple, on fait une soirée pizza d'ailleurs qui est ouverte à tout le monde aussi, et donc on essaye de créer encore plus de convivialité, mais c'est vrai que ça fait une concurrence par rapport aux structures habituelles, traditionnelles, je vais dire. Par contre, il y a beaucoup de bars échecs qui s'ouvrent actuellement.
Le dernier, c'est quand même mieux de jouer en face à face qu'en ligne,
oui, tout à fait, mais
après ça, c'est pas les mêmes générations, je pense, mais c'est comme il y a quand même un côté humain aussi d'avoir.
Oui. Alors, mais il faut s'adapter, c'est-à-dire que, à mon sens, il y a pas de, c'est pas une concurrence en réalité. Plus il y aura de personnes qui joueront aux échecs, et mieux ça sera.
C'est plutôt complémentaire en fait.
C'est complémentaire. Ouais.
Pour les jeunes, par exemple, qui sont éloignés de Chalon, ça leur permet d'être présents en cours avec leurs copains de la maison à distance. Et ça, il y a quelques années, c'était pas possible. Donc c'est un avantage pour eux. Des parents qui peuvent pas les amener au club le mercredi, les enfants, ils sont à l'heure en cours, ils sont chez eux. Avec leur casque sur les oreilles.
En visio, sur la partie formation.
Sur la partie formation.
Et ça, c'est vrai que c'est un avantage des nouvelles technologies. Ça. Ouais. Et vous parliez de formateurs salariés. Vous avez beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit 600 salariés au lieu de 600 licenciés.
Non, mais c'est un bel objectif à atteindre. Vous êtes visionnaire au niveau national.
On y arrivera. Et vous avez beaucoup de salariés au club chalonnais?
Sur la structure, il y a 9 salariés. 8 salariés à plein temps.
Ah oui, quand même. Oui, donc c'est parce que vous êtes une grosse structure en fait.
Alors là, sur l'échelle nationale, il y a à peu près 1000 clubs. Les 3 premiers clubs en France, c'est Marseille, Strasbourg et Chalon.
Ah oui.
Voilà.
Ah
pendant quelques années, on était à la première place. Mais bon, là, c'est compliqué de rivaliser.
Ce sont quand même des grandes villes.
Donc l'échiquier chalonnais, on se compare souvent avec la foire de Châlons-Champagne qui est exceptionnelle, qui est notre grand rendez-vous économique.
Oui, vous y êtes d'ailleurs sur la foire.
Dans tous les domaines. Et l'échiquier chalonnais, c'est aussi un peu c'est le même, le même critère.
C'est une belle aventure quand même, ce club.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est la convivialité d'abord, et puis on est tous des passionnés, et ce qui fait que toute l'équipe est à fond, et c'est pour ça qu'on obtient des résultats assez incroyables pour une ville moyenne comme Châlons-Champagne. Voilà. Là, le fait d'avoir le staff qu'on a, là par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez déjà des formateurs qui sont de haut niveau, forcément, et qui doivent arriver à transmettre leur passion.
Alors, ces formateurs-là, ils sont là aussi parce que tous les forts joueurs veulent jouer dans l'élite nationale du jeu d'échecs, le top 16. C'est,
oui, voilà, j'ai vu ça, c'est grâce, top 16. Je ne savais pas ce que c'était, le top 16.
Alors, le top 16, c'est l'équivalent de la Ligue 1 au football.
D'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai vu ça, j'avais noté et je me suis dit, bon, top 16.
C'est 8 joueurs, dont une joueuse au minimum, qui s'affrontent sur un championnat. Et à la fin de ce championnat, on décerne le titre de champion de France des clubs. Et après, championnat d'Europe et championnat du monde. Enfin, voilà. Comme dans les autres compétitions.
D'accord, donc top 16, oui. Donc c'est un objectif à atteindre. C'est une
ambition. Non, on est présent déjà.
Non, mais je veux dire, pour un jeune ou. Enfin, un adhérent ou une adhérente, c'est leur rêve. C'est leur rêve quoi. C'est, oui.
De jouer à ce niveau-là.
Accéder dans cette équipe-là.
Donc top 16. Donc ça, c'est le premier niveau de l'évolution, c'est ça? Et ensuite, pour devenir grand maître, est-ce qu'il y a des éléments intermédiaires?
Il y a des étapes, sans doute.
Il y a des étapes obligatoires.
Oui, tout à fait. Il faut obtenir trois normes. Alors déjà, il y a d'autres niveaux avant de devenir grand maître. Il y a maître FIDE, après il y a maître international, et après il y a grand maître. Grand maître, c'est le titre suprême, comme Garry Kasparov, voilà, ou Karpov. Et donc il faut.
Il y a combien de grands maîtres, par exemple, au niveau mondial? Est-ce qu'on a une idée? Ça se chiffre en centaines, en milliers?
Il peut y en avoir plusieurs, il n'y en a pas qu'un.
En France, par exemple, quand Paul est devenu grand maître, c'était le 50e.
En France,
voilà. Donc il y a quelques années, on va dire, il y a 60 en France, il y a 60 grands maîtres par exemple. Mais donc c'est très 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 dur à atteindre. Hein. C'est vraiment là, c'est des personnes, elles ne font que ça.
Ils doivent travailler
tout ça. C'est comme un sport intensif.
C'est du sport de haut niveau.
C'est comme tous les sportifs de haut niveau. Mais moi, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission, là, malheureusement.
Je voulais glisser. Alors, on parle d'entraînement, de sport. Est-ce qu'il y a un régime particulier, un régime alimentaire, par exemple, à respecter, un régime physique?
Alors, pour vraiment atteindre ce niveau-là, en général, il faut avoir une condition physique exceptionnelle. Hein. Une partie d'échec va durer entre 4 et 6 heures. Là, moi, je le vois, je suis assez costaud. À un moment donné, mon niveau de concentration, au bout de 3 heures, baissait. Et je regardais mes parties, je disais, mais comment c'est possible que j'ai joué ça?
Et donc, à fortiori, pour un jeune adolescent ou plus jeune.
Il faut être en bonne forme physique.
Il faut être en très bonne forme physique, tout à fait.
Il faut en général beaucoup de sport.
Donc, ça suppose effectivement derrière une intensité d'entraînement physique.
Oui,
purement physique.
Oui, parce qu'il faut tenir quand même une partie de 6 heures.
Là,
oui, il faut tenir sur la distance. Hein,
c'est on a le droit de manger pendant une partie.
On a le droit de manger, de se lever, de boire. Évidemment, mais sur c'est quand même intense.
Oui.
Sur le top 16, le midi. C'est poisson obligatoire pour tous les joueurs. On a effectivement et on mange pas de. Par exemple, on n'a pas le droit de manger de viande. Et il faut le faire longtemps avant la partie.
Donc un régime protéiné quoi. Oui,
La viande, c'est à la rigueur, c'est le soir. Mais le midi, c'est poisson. On mange léger pour pouvoir bien se.
Oui,
bien
pas dormir. Parce que bon, si on mange trop, on aura envie de dormir.
Et le petit déjeuner, c'est pareil. Beaucoup de pain complet. Voilà. Et chaque joueur de l'avoine, parce que c'est moi qui fais à manger, donc je peux te donner le soir, on se lâche.
Moi, je voulais terminer l'émission en disant, faire un petit résumé, en disant que vous avez, que les échecs sont accessibles aux filles, aux garçons, aux personnes en situation de handicap, filles et garçons, mais je veux dire en bonne santé ou même en situation de handicap, parce que vous avez aussi développé ça, et que c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un grand matheux ou un grand physicien. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et puis que vous avez pas mal de créneaux et aussi plusieurs lieux sur Chalon. Donc l'idée, c'est d'aller voir, d'essayer, voir si ça convient et après continuer éventuellement. Vous avez peut-être un mot de la fin à dire, je sais pas.
Honneur aux dames.
C'est fini ça, dans l'égalité il n'y a plus ça hein. Mais allez-y quand même.
Non, vous avez bien résumé. Je voudrais simplement dire que les gens ne doivent pas hésiter à pousser la porte du club. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit, d'être ridicule parce qu'on ne sait pas jouer ou d'être le seul qui ne sait pas jouer. Voilà. On a tous été débutants dans quelque chose à un moment donné de sa vie. Moi je ne joue pas aux échecs depuis très longtemps. J'ai adoré entrer à ce club d'échecs et j'en suis pas repartie. Donc ça arrive
d'avoir une ambiance très conviviale.
Oui, voilà.
Rien que vous
on rencontre.
Vous êtes à la fois passionné et ouvert.
Donc venez nombreux,
et nombreuses.
Et nombreuses.
On vous accueillera avec plaisir, avec c'est plaisir, ça qu'il faut.
Voilà, la convivialité, et on va passer des bons moments ensemble.
Merci à vous.
Merci.